Le journal présenté par Stéphane Genest.
Bonjour à toutes et à tous. Le coronavirus inquiète et n'en finit pas de faire des victimes. Plus de 100 cas de personnes contaminées ont été recensés en Italie. Une dizaine de villes du nord du pays ont été placées en quarantaine. Nous retrouverons notre correspondant sur place. La Chine, la Corée du Sud ou encore l'Iran, plusieurs pays font face à cette contamination. Ce matin, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait savoir que la France se préparait à une épidémie. Nous ferons le point avec Cosima Mezidi Alem. Aux États-Unis, large victoire de Bernie Sanders dans le cadre des primaires démocrates dans le Nevada. Le candidat consolide sa place de favori, mais nous verrons que cet état de l'ouest du continent américain n'est pas représentatif de l'électorat démocrate. En France, 7e jour de débat à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. L'article 49.3 de la Constitution est dans toutes les têtes. La majorité et l'opposition se renvoient à la responsabilité d'utiliser cette mesure radicale. Nous verrons pourquoi. Et enfin, dans une dizaine de minutes, vous avez rendez-vous avec Nabila Hamel pour la face cachée du globe et nous constaterons que l'on se remet à croire en la paix en Afghanistan et au Soudan du Sud. Le coronavirus inquiète les autorités italiennes. Le pays vient de dépasser les 100 cas confirmés. C'est le nord de l'Italie qui est principalement touché, avec deux décès qui ont été signalés. Et pour faire face à une probable épidémie, les autorités ont ordonné la mise en quarantaine des localités les plus touchées. Près de 50 000 personnes sont censées être totalement confinées. Bruce de Galzin, vous êtes à Casal Pusterlengo et ce n'est pas ce que vous avez pu vérifier sur place, hein.
Dans cette ville de 15 000 habitants, ni les carabiniers ni les pompiers n'ont reçu d'instruction pour interdire l'entrée ou la sortie de Casal Pusterlengo. Ils sont pourtant nombreux à se déplacer chez les carabiniers pour leur demander une autorisation de sortie, car les sanctions sont lourdes, une amende de 600 euros et même de la prison. Pour l'instant, aucun barrage ni force de police à l'entrée de la ville. Il faudra sans doute un peu de temps pour mettre en place le périmètre de sécurité. La population n'est pas tombée dans la psychose, même si certains font la queue pour acheter à manger. Il y a moins de monde que d'habitude dans les rues, car les bars, restaurants, les marchés, tous les lieux publics, excepté quelques supermarchés, sont fermés. Certains portent des masques, d'autres pas, car il n'y en a tout simplement plus dans les pharmacies. La plupart des habitants qui sortent de chez eux se demandent combien de temps leur ville sera confinée et quand pourront-ils repartir travailler. Si la mairie indique sur sa porte d'entrée que par précaution, ces services seront fermés au public jusqu'à mardi, on sait déjà que la plupart des lieux publics ne vont pas rouvrir avant 15 jours.
Les explications de Bruce de Galzin, correspondant de France Culture en Italie. Mais il n'y a pas que l'Italie justement qui se préoccupe du coronavirus. La France aussi se prépare à faire face à une épidémie. Bonjour Cosima Mezidi Alem.
Bonjour Stéphane.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé que de nouveaux cas de contamination au coronavirus étaient très probables en France.
Oui Stéphane, les autorités se préparent à un risque d'épidémie. C'est ce qu'a affirmé Olivier Véran à nos confrères du Parisien. Beaucoup de laboratoires vont être équipés pour faire des diagnostics. Mais pour le moment, il ne reste qu'un patient en France hospitalisé à Lyon. Son état de santé n'est pas préoccupant. Aujourd'hui, le bilan le plus important se trouve en Chine. Les autorités sanitaires font état de plus de 2400 morts et près de 77 000 cas de contamination. Ensuite, il y a la Corée du Sud qui a son plus haut niveau d'alerte. Les chiffres sont en hausse avec plus de 600 cas et 5 décès depuis ces derniers jours. C'est le deuxième plus grand nombre de malades après la Chine.
Et Cosima, dans le cadre de cette épidémie de coronavirus, il faut aussi évoquer la situation en Afrique.
Exactement Stéphane, un cas de contamination a été confirmé en Égypte, mais le directeur général de l'OMS a exprimé des inquiétudes par rapport au système de santé plus précaire de l'Union africaine. Il serait alors sous-équipé face à une hausse des cas de coronavirus. Du côté du Moyen-Orient, les décisions politiques s'enchaînent. Un cas a été recensé en Israël et le gouvernement, en réaction, interdit l'entrée sur son territoire aux vols provenant de Corée du Sud et du Japon. Hier soir, quelques 200 passagers étrangers n'ont pas pu débarquer et vont être renvoyés en Corée du Sud. L'OMS, de son côté, s'inquiète de la situation en Iran qui a annoncé la mort de 8 personnes et une quarantaine de contaminés. Des mesures de prévention ont été mises en place, des écoles et universités ont été fermées à Téhéran et dans d'autres provinces du pays.
Merci beaucoup, Cosima. Et Xi Jinping, le président chinois, précise que le coronavirus est la plus grave urgence sanitaire en Chine depuis 1949. En Iran, où l'on attend encore les résultats des élections législatives qui se sont déroulées vendredi. Pour le moment, les résultats partiels donnent les conservateurs en tête, mais le taux de participation n'a pas été rendu public par les autorités. Et pour cause, il était annoncé très bas. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, accuse d'ailleurs la presse étrangère d'avoir lancé une campagne, je cite, de propagande massive pour décourager les Iraniens d'aller voter pour ces élections législatives. 7 personnes, dont 3 enfants, sont morts après un séisme d'une magnitude de 5,5 1,7 sur l'échelle de Richter dans le nord-ouest de l'Iran, près de la frontière avec la Turquie. 5 autres personnes ont été blessées et hospitalisées et d'autres personnes se trouveraient encore piégées sous les décombres. La coalition saoudienne annonce avoir déjoué une attaque terroriste planifiée par les rebelles Houthis dans le sud de la mer Rouge. D'après le porte-parole de la coalition, les rebelles proches de l'Iran auraient lancé un bateau sans pilote bourré d'explosifs depuis la province d'Odeida sur la côte occidentale du Yémen. L'embarcation a été détruite, les Houthis n'ont quant à eux pas réagi. Aux États-Unis, Bernie Sanders consolide sa place de favori dans le cadre des primaires du Parti démocrate. Le sénateur âgé de 78 ans a remporté les caucus de l'État du Nevada. Une victoire éclatante certes, mais Eric Bigala, le Nevada n'est pas forcément représentatif de l'électorat démocrate.
Certes, il n'est pas représentatif de cet électorat dans son ensemble, mais le Nevada est surtout un État où les minorités sont importantes. Et les minorités votent plutôt démocrate aux États-Unis. Dans le Nevada, 40% de la population est non blanche, avec un tiers d'hispaniques environ, souvent employés dans l'hôtellerie, la restauration et l'industrie du jeu. Las Vegas est la capitale de l'État du Nevada. Et c'est auprès de cette population-là que Bernie Sanders a fait carton plein hier soir. Selon une enquête de l'Edison Media Research, réalisée à l'entrée des bureaux de vote, Sanders a recueilli 51% du vote latino. Les promesses de Sanders d'une couverture santé universelle s'il devenait président ont manifestement séduit cet électorat. Bernie Sanders fait donc désormais la course en tête dans ses primaires démocrates, ayant remporté 2 des 3 premier scrutin, et devra à nouveau séduire un électorat minoritaire, les Noirs, lors de la prochaine joute en Caroline du Sud le 29 février prochain. Et puis bien sûr, il y aura le Super Tuesday du 3 mars. Là, 14 États se prononceront de concert sur l'investiture du candidat démocrate. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on aura une vue un peu plus claire quant à l'identité du champion des démocrates qui affrontera Donald Trump en novembre.
L'Australie qui vient de vivre un de ses pires étés. Des incendies d'une violence sans précédent ont dévasté des millions d'hectares de forêt, tué plus d'un milliard d'animaux et détruit des milliers de maisons. La crise est désormais terminée, mais aujourd'hui, à Sydney, se tient une journée de commémoration pour toutes les victimes de ces incendies. Une cérémonie qui est aussi une étape vers la reconstruction. En France, pas de trêve dominicale pour les députés. 7e jour de débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les discussions toujours au ralenti en raison des quelques 41 000 amendements déposés par les parlementaires de l'opposition. Hier, les députés ont adopté sous les applaudissements de la majorité 2 premiers amendements concernant les aidants familiaux et le handicap. Mais une expression revient sur toutes les lèvres des élus. Le 49.3, cet article de la Constitution qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur un texte de loi. Et face au blocage, les élus de La République En Marche évoquent de plus en plus ce recours à cet article de la Constitution. Mais pour l'instant, la majorité et l'opposition se renvoient à la responsabilité d'utiliser cette mesure radicale. Pascal Perrino, l'ancien directeur du CEVIPOF et politologue, nous explique pourquoi.
Quand d'autres auparavant, Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin ont utilisé l'article 49 alinéa 3, il y avait toujours cette même petite chanson où l'on dit voilà, cela montre que la démocratie française évolue dans un sens autoritaire. Mais c'est un combat de posture parce qu'en fait, derrière tout cela, il y a une majorité qui est un peu coincée par le calendrier qu'elle s'est elle-même imposé puisqu'elle voudrait que tout soit bouclé avant les municipales. Et du côté de l'opposition, en particulier de la France insoumise, c'est difficile de dire qu'il y a un vrai débat puisque la France insoumise, elle, ne veut pas rentrer dans l'amélioration du projet tel qu'il est. Elle voudrait le retrait total du projet. Mais on voit bien que l'article 49 alinéa 3, ça montre un signe de faiblesse. Et c'est pour ça certainement que la majorité ne veut pas endosser aujourd'hui la responsabilité de l'article 49 alinéa 3 qui est toujours utilisé par les oppositions comme étant un épouvantail.
Pascal Perrino, politologue et ancien directeur du CEVIPOF, joint par Diane Berger. En France toujours, où 12 collectifs et syndicats hospitaliers appellent Olivier Véran, le ministre de la Santé, à des négociations urgentes pour sortir l'hôpital de la crise. Depuis presque un an, médecins, paramédicaux et internes sont en grève pour réclamer plus de moyens dans les établissements hospitaliers publics. Midi 40 sur France Culture et la face cachée du globe aujourd'hui nous emmène en Afghanistan et au Soudan du Sud, où l'on se remet à croire à la paix et on en discute avec vous, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Stéphane. Si les manifestations contre la corruption sont toujours de mise à Bagdad, elles ont touché hier la région autonome kurde d'Irak, traditionnellement dirigée par deux partis. Mais c'est du coup le parti d'opposition, Nouvelle Génération, qui a fait sortir des milliers de personnes à Soleimaniyeh. Elles ont dénoncé la corruption de leur classe dirigeante et l'indigence des services publics dans une région autonome depuis 1991 et largement épargnée par les violences qui ont ravagé le reste du pays. Le nouveau Premier ministre du Kosovo se dit prêt à abolir les droits de douane punitifs infligés aux produits serbes par le précédent gouvernement. Il n'y a pas si longtemps, Albin Kurti faisait partie de ceux qui renversaient des camions de marchandises serbes dès qu'ils entraient en terre kosovare. Ils étaient depuis plus de 12 ans dans un camp de réfugiés au Kenya. 70 Éthiopiens ont effectué jeudi un retour volontaire dans leur pays. C'est la première initiative du genre soutenue par le Haut Commissariat aux réfugiés. Depuis les récentes réformes engagées par Addis Abeba, 10 000 Éthiopiens réfugiés à Djibouti, en Somalie, au Soudan et au Yémen ont exprimé au HCR leur intention de rentrer chez eux. Une trêve partielle a été décrétée en Afghanistan ce week-end. Elle est censée constituer une garantie pour la signature samedi prochain d'un accord dit historique entre les États-Unis et les talibans. Mais s'il est demandé aux insurgés de réduire seulement le nombre de leurs attaques, de nombreux jeunes Afghans et Afghanes veulent y croire et Sonia Rezali, des hashtags en ce sens fleurissent déjà dans le pays.
Il est plus de minuit ce vendredi quand les premiers messages de joie sont publiés sur les réseaux sociaux. La trêve partielle vient tout juste d'entrer en vigueur et déjà dans les provinces, le bruit des armes a laissé place au silence. Une vidéo commence à circuler, on y voit des hommes, le visage illuminé par un large sourire, danser en cercle, exécuter la tane, la danse traditionnelle de la communauté pachtoune. L'auteur de la vidéo écrit « Il n'y a pas de raids aériens ce soir des Américains ». Sur la toile, deux hashtags font leur apparition « Si la paix revient » et « Quand il y aura un cessez-le-feu ». Un jeune entrepreneur écrit rêver de voyager à travers son pays et de partir découvrir des contrées reculées d'Afghanistan comme le Nouristan, une province réputée pour sa beauté incroyable, mais inaccessible, car pour y accéder, il faut traverser des zones contrôlées par les talibans. Je veux toucher ses collines vertes, ses folles rivières et son ciel bleu. Je veux grimper à ses arbres et connaître ses pigeons. Twitter Amin Mazar, un poète bien connu en Afghanistan, il avait déclamé un poème d'amour et en faveur de la paix en pleine rue à Kaboul lors de la Saint-Valentin l'année dernière, défiant les traditions et les plus conservateurs. Cette trêve partielle donne espoir aux Afghans qui ne connaissent pas leur pays à cause de la guerre, un pays aux multiples frontières internes, car les talibans contrôlent ou ont une influence sur près de la moitié du territoire.
Le Soudan du Sud, autre pays où l'on se demande si un espoir de paix est permis. Indépendant depuis un peu plus de 6 ans, ce tout jeune État a immédiatement sombré dans une guerre civile qui a fait 380 000 morts. Elle a été déclenchée par les rivalités politiques entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Entré en rébellion depuis, Riek Machar a de nouveau été investi vice-président hier. Marc Lavergne, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Est-ce que les frères ennemis d'hier sont réellement prêts à faire la paix, à appliquer l'accord de 2018 et à constituer un gouvernement d'union nationale?
Je pense que la sincérité des deux protagonistes est assez limitée parce que il y a encore une semaine, Riek Machar refusait certaines des conditions de son retour au pouvoir et que ces conditions n'ont pas été changées et il est quand même revenu. Donc il y a dû y avoir des pressions internationales pour l'amener à prendre le risque d'accepter la position de vice-président. C'est un titre qui est pour l'instant assez virtuel et il refusait jusqu'à présent de rentrer dans la capitale du Sud-Soudan parce qu'il savait que sa vie était en danger. Donc rien n'a changé sur le fond. Il a accepté des conditions qui étaient difficiles à accepter dans la mesure où il s'agissait du partage des richesses du pays et en particulier le président Salva Kiir avait accepté de réduire le nombre d'États fédérés dans cet ensemble sud-soudanais, mais il avait réservé 3 régions administratives, en particulier celle qui produit 80% du pétrole du pays. C'est-à-dire que lui, président, contrôlait directement la ressource principale du pays qui lui permettait de payer son armée, de payer ses affaires dilapider sa tribu, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension ethnique qui est née avec le temps, mais il ne faut pas réduire cette équation à une dimension ethnique, hein. Et ni Salva Kiir, ni d'ailleurs Riek Machar ne sont, semble-t-il, les personnages qui pourront mener ce projet à terme.
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila. Puis la face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de cet après-midi, de la pluie et des nuages sur le nord du pays. Au sud d'une ligne La Rochelle-Mulhouse, du soleil et de très belles éclaircies. Les températures sont très douces pour la saison. Elles seront comprises entre 11 et 22 degrés. Midi 45 sur France Culture. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.